La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers pour notre dernière émission de la semaine. Vous le savez maintenant, vous n'avez pas besoin de masque ou de distance de sécurité avec votre radio préférée pour embarquer à bord de la Covidienne, notre quasi quotidienne actualité confinée. Au programme de l'émission de ce soir, après avoir découvert hier comment la police municipale de Montreuil-Junier vivait la situation actuelle, j'ai été à la rencontre de monsieur Benoît Cochet, maire de la commune, pour en savoir plus sur son quotidien en pleine crise sanitaire. Pour la deuxième partie d'émission, Alexis nous a préparé une toute nouvelle chronique et il nous parlera cette fois de l'impact de la situation actuelle sur le milieu de la fête. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Pour ceux qui étaient branchés sur nos ondes hier soir, vous avez probablement pu entendre l'interview réalisée avec Jean-François Leflaec, responsable de la police municipale de Montreuil-Junier. Aujourd'hui, pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir le point de vue de monsieur Benoît Cochet, maire de cette même commune. Comment faire face à une crise sanitaire en tant que maire? Les élus sont-ils préparés à une gestion de situation de crise? Je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers. Avec notre nouveau format temporaire sur Radio Campus Angers, nous essayons de partir à la rencontre de différents acteurs du territoire. J'ai avec moi aujourd'hui au téléphone monsieur Benoît Cochet, maire de Montreuil-Junier. Bonjour à vous et merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Bienvenue dans notre Covidienne.
Bonjour.
Vous êtes engagé dans la ville, la municipalité depuis plusieurs années. Est-ce que vous accepteriez de commencer en nous présentant un petit peu votre parcours?
Alors oui, en effet, je dirais que c'est d'abord avant tout l'envie de s'engager pour autrui. À partir du moment où, de toute façon, on s'engage dans une municipalité, il faut avant tout aimer les gens, aimer les autres. Et je dirais que j'ai commencé ce parcours alors que j'étais étudiant dans une association montreuillaise où j'ai été co-responsable d'une association sportive pendant plusieurs années. J'ai ensuite répondu à l'appel à l'époque de Stéphane Pinoir qui alors constituait une liste pour les élections municipales afin de le rejoindre et accompagner les dossiers de l'enfance, de la jeunesse et des sports. Je suis donc retrouvé adjoint au maire, très jeune, en charge de ces dossiers. Et puis, quatre ans après, à ma plus grande surprise et avec une réflexion qu'il a fallu mener vite, qui a été difficile, j'ai accepté la mission de devenir maire de Montreuil-Junier, puisque Stéphane Pinoir avait été élu sénateur. J'ai été très bien accompagné, à la fois par les collègues élus qui m'ont accompagné dans l'ancien mandat, par l'ensemble des agents de la collectivité, mais aussi par l'accueil que m'ont fait les habitants. Et après une réflexion, le 15 mars dernier, les électeurs ont réuni la liste que j'ai composée à près de 80% des voix.
Et j'imagine qu'avec tout ce parcours, vous avez l'habitude d'avoir un certain nombre de responsabilités. Est-ce qu'il faut un profil particulier pour pouvoir tenir ces différents postes, pour ne pas forcément succomber au stress?
Alors, est-ce qu'il faut un profil particulier? Je pense qu'il y a un profil dans toutes les personnes qui ont autour de nous des responsabilités. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il faut d'abord, avant tout, savoir écouter. Prendre le temps, écouter les personnes qui vous entourent, les habitants, les experts, les élus, les agents, être au plus près de chacun. Donc, en effet, c'est chronophage parce que pendant que vous êtes en train de prendre le temps d'écouter chacun, ben, vous ne faites pas le reste du travail, mais c'est la base de la chose. Un peu prendre de recul aussi, prendre de la hauteur, parce que c'est vrai que les dossiers s'enchaînent, les difficultés aussi. Et il faut savoir relativiser un certain nombre de choses. Et puis, je pense qu'indéniablement être organisé pour traiter les choses les unes après les autres. La vraie satisfaction, c'est quand on voit la pile de dossiers diminuer. Alors très vite, elle remonte. Mais quand on voit les choses avancer, les projets aboutir, la satisfaction des habitants. Vous savez, le merci d'un citoyen, il a une vraie valeur.
Comme vous le disiez tout à l'heure, donc les municipales ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'était d'ailleurs mis en péril avec les premières annonces de confinement. Est-ce que vous appréhendiez l'annulation de ce tour de vote? Est-ce que vous aviez eu des informations particulières si jamais ça devait être annulé?
À la moitié du mois de février, à la mi-février, j'ai prévenu mon équipe que je n'étais pas sûr que le scrutin se déroulerait. On a ensuite eu des annonces gouvernementales à la fin du mois de février, début mars, sur lesquelles on a entendu très clairement que le scrutin municipal allait avoir lieu. Il n'était pas question de le remettre en cause. Donc, on a continué. Moi, j'avais toujours ça dans un coin de la tête. Je vais vous raconter une anecdote. On a fait donc une campagne, un temps de proximité encore plus fort avec les populations. Et cette campagne se terminait pour ce qui nous concerne par une réunion publique qui avait lieu le jeudi 12 mars et on apprend la veille intervention du chef de l'État, la première, pour faire des premières annonces et dans la journée, tous les bruits ont couru, notamment le fait que le chef de l'État pourrait annuler le premier tour des élections, enfin, des élections municipales qui devaient avoir lieu le dimanche après. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du direct, c'est-à-dire que on était en train d'accueillir les gens sur cette réunion publique, tout en permettant à quelqu'un d'écouter l'intervention du chef de l'État. Et je crois qu'à 20h05, le chef de l'État a prononcé le mot que le premier tour des élections municipales aurait lieu. On a donc lancé la réunion. Donc ça s'est vraiment fait in extremis. Bon, le samedi soir, on entend l'intervention du Premier ministre qui ferme les bars, tous les lieux de rencontre. Hein. Et là, je m'interroge moi toute la nuit en me disant, mais pas possible que le scrutin ait lieu demain, dans quelles conditions? Et puis, bon, il faut dire que sur Montreux-Junier, comme dans la quasi-totalité des communes, énormément de précautions avaient été prises. Et vous savez, pendant 15 jours après le scrutin, je n'avais peur que d'une chose, c'était que toutes les personnes qui aient pu tenir le bureau m'appellent en me disant je suis malade, ce qui n'a pas été le cas parce que je pense qu'en effet, à l'époque, dans le Maine-et-Loire, hein, ne circulait pas de façon intensive.
En tout cas, c'est sûr que c'est des conditions quand même assez particulières. Vous aviez, entre guillemets, si on peut dire ça, la chance d'avoir déjà apprivoisé ce titre de maire, mais j'imagine que ça peut être quand même complexe de commencer un nouveau mandat municipal avec une situation comme celle-ci.
Ah mais c'est sûr, c'est inédit, c'est historique. Une autre anecdote, au lendemain de l'intervention du chef de l'État, le lendemain matin, je réunis pour la première fois la cellule de crise de Montreux-Junier parce que les premières décisions avaient été prises, et notamment la fermeture des écoles. On est à quelques heures d'un scrutin municipal avec, il faut être honnête, l'inquiétude de ce scrutin parce que ça crée une inquiétude chez les candidats, forcément, de savoir quel va être le choix des électeurs. La fatigue, c'est un vrai marathon, et la gestion d'une crise qui vous arrive en pleine figure. Alors, toute proportion gardée, hein, je suis maire, hein, je ne suis pas préfet, et encore moins ministre ou chef de l'État, pour qui les jours actuels sont encore plus compliqués. Mais je peux vous dire, je l'ai senti encore plus le lundi matin, donc juste après les élections, j'ai eu un coup de fil. C'était la première fois que ça m'arrivait du préfet de Maine-et-Loire pour me délivrer deux messages, d'abord pour me féliciter pour l'élection et me dire ô combien il allait avoir besoin de maires forts et courageux pour la période qui nous arrivait. Et c'est en entendant ce message que j'ai pris conscience que la période dans laquelle on allait rentrer allait nous demander beaucoup d'imagination et présence quasiment 7 jours sur 7, je ne vais pas dire 24 heures sur 24.
Justement, il va falloir être préparé, j'imagine, à ce genre de situation de crise, notamment sanitaire. Est-ce que vous pensez que vous l'avez été? C'est quand même toujours compliqué d'apprivoiser un petit peu ces situations.
On n'a pas de passé, on n'a pas de vécu dessus. Donc, dire qu'on était prêt à l'échelle de notre lignée, c'est vrai. Hein, je veux dire, personne n'était préparé. Je crois qu'on a compté sur la solidarité de chacun, on a compté sur l'inventivité, le courage. Moi, je dois remercier. Enfin, vous savez, je l'aurais écrit et je l'aurais dit, toute la fierté que j'ai des agents du service public de Montreux-Junier, avec la réactivité avec laquelle ils se sont emparés des choses. Le lundi soir, le chef de l'État annonce le confinement. Il faut que le mardi, tout le monde soit confiné. Le mardi matin, j'ai vu ces agents partir avec leur ordinateur sous le bras, leur dossier, pour rentrer chez eux dans l'unique objectif, certes, de se confiner, mais de poursuivre leur mission de service public. Ils ont toujours répondu présent. Vous voyez, on a un service, donc on accueille bien sûr les enfants des personnels soignants. Je crois que sur les 40 agents, si je me souviens, des 40 agents de qui composent nos écoles, il y en a plus d'une trentaine qui se sont tout de suite portés volontaires pour être présents, pour accueillir les enfants. Et dans ceux qui ne sont pas portés volontaires, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de nos collègues qui tout simplement ne pouvaient pas le faire. Et on ne souhaitait pas qu'elles le fassent parce que c'était des collègues qui présentaient des risques et que si ces personnes-là contractaient le Covid-19, les conséquences pouvaient être beaucoup plus longues. Donc, j'ai senti cet élan de solidarité. On l'a senti chez les agents, on l'a senti chez les élus, on l'a senti chez l'ensemble des bénévoles, des Restos du Cœur, notamment qui agissent sur le territoire de Montreux-Junier. Et il faudra garder l'essence de cette gestion de crise, où certes, on n'était sûrement pas prêts, mais je pense qu'on a géré au mieux. Restera indéniablement dans les livres d'histoire.
Et j'imagine que dans toutes ces situations, encore plus qu'habituellement, vous travaillez vraiment à plusieurs sur les différentes situations, les différentes questions, et le collectif est avant tout au cœur de toutes les questions qui peuvent se poser.
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Le collectif, oui, mais le collectif, il est un peu réduit. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne prends pas les décisions seules, mais pour moi, le collectif, il est beaucoup plus fort en situation normale où vous avez la possibilité de vous réunir, de vous mettre autour d'une table, vous voyez bien. Indéniablement, j'ai plutôt joué la délégation, mais c'est vrai que j'ai un sentiment qui me plaît moins, c'est ce sentiment un peu où on a ce pouvoir un petit peu centralisé autour du maire, parce que, si vous voulez, on n'a pas en fait vraiment les moyens pour le moment, ni les moyens ni le temps. C'est-à-dire que une réflexion, il faut du temps aussi, des fois il faut 8 jours, 10 jours, des mois pour mener un projet. Là, vous savez, la préfecture, vous recevez des circulaires le matin, dans la nuit, à 2h du matin, ça m'est arrivé. Il faut que le lendemain, à 14h, tout soit bouclé, mis en place et géré. Donc, si vous voulez, en ce moment-là, vous jouez le collectif, mais vous jouez le collectif avec un collectif qui reste réduit, indéniablement. Donc, oui, la valeur collective, elle est importante, mais néanmoins, la vraie démocratie, le vrai travail de groupe, il existe en situation ordinaire.
Est-ce que vous vous sentez assez renseigné au niveau national? C'est pas trop flou, c'est pas trop compliqué de garder les idées claires avec tout ce qui se passe?
C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que, à la fois, on a plusieurs sources d'informations. Alors, moi, bien sûr, je m'arrête sur les sources d'informations du préfet, hein, très clairement. C'est notre seule et unique source d'informations viable et certaine. Si vous voulez, ce qui était le plus frustrant dans le mois, là, c'est que d'habitude, quand vous êtes élu, vous prenez le temps de la maturation d'un projet, puis le jour où le projet est mûr, abouti, il est mis en œuvre, vous l'ajustez, mais vous ne le transformez pas. Hein. Vous voyez, les choses sont plutôt assez. Là, c'est vrai qu'on a plus ce sentiment de revenir régulièrement sur des choses. Quoi. Je prends l'exemple des jardins familiaux. Des jardins familiaux, avant que je venais, on avait pris la décision, c'était la ligne que nous donnait l'État, hein, de fermer tous les espaces publics. Progressivement, on a entendu que ces jardins familiaux devaient être ouverts. Donc moi, j'ai eu pas mal de citoyens qui m'ont interpellé sur cette question. Et donc, on a réinterrogé la préfecture. Et puis, on a eu des nouvelles à la préfecture. Puis, bah oui, on essaye, il faudrait pouvoir permettre. Donc, vous voyez, là, on a changé. Donc, c'est sûr que c'est compliqué, certes, pour moi qui prends la décision. Mais quand je prends la décision, pour les gens qui font appliquer ces règles sur le terrain, c'est pour eux que c'est encore plus difficile. Et j'ai eu le sentiment, parfois, en effet, que on ne donnait pas, en tout cas, à la population, mais là, je parle au sens très large, hein, sans jeter la pierre à qui que ce soit, parce que c'est surtout pas le moment, mais on ne donnait pas forcément une ligne précise. Et le rester chez vous, c'était historique, hein. Il fallait que chacun prenne conscience qu'il fallait rester chez soi. À un moment donné, le discours, il a été clair, moins clair après, donc j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a avancé et que les choses sont un peu plus prises en compte, sûrement parce que les gens, ils ont fait du chemin, on a tous fait du chemin aussi sur la nécessité de ce confinement.
Et vous avez quand même une certaine liberté pour pouvoir adapter certaines consignes. Je pensais par exemple au marché que vous pouviez choisir ou non d'annuler, en tout cas de manière collective. C'est pas trop compliqué d'adapter les différentes consignes à la ville?
Si on prend l'exemple du marché, hein, on a pris le temps de la réflexion. Le marché, c'est un marché assez conséquent. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte pendant le mandat encore plus. Et plus de 30 commerçants tous les vendredis, dont 25 commerçants alimentaires. Et en fait, si on voulait rouvrir le marché dans sa forme ordinaire, il fallait que je limite entre 10 et 15 grands maximum commerçants. Donc, entre le choix des commerçants, l'espace qui n'était pas le bon et les mesures barrières, parce que, je veux dire, à un moment donné, vous savez que je vais être un peu dur, mais le plus difficile pour moi en ce moment, c'est d'écrire des cartes de condoléances aux familles qui, malheureusement, ont perdu quelqu'un dans le cadre de ce coronavirus. En tout cas, pour vous, je ne les multiplie pas, donc, avant tout, la ligne que l'on doit avoir, la responsabilité, c'est d'assurer la sécurité. Alors certes, avec des contraintes, on a trouvé des formes alternatives, on a encouragé la livraison à domicile, et ça fonctionne très bien, on a d'excellents retours et on en est extrêmement satisfait. C'est comme la déchetterie, l'agglomération d'Angers a décidé de maintenir les déchetteries fermées. J'entends ces gens que j'ai pu avoir au téléphone, rencontrer, qui me disent « Oui, mais on a des déchets chez nous, on ne sait pas où les mettre ». Je leur réponds tout simplement qu'entre des déchets qui peuvent rester chez les gens et la santé, très personnellement, mon choix, il est fait et il est clair. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut essayer toujours de se repositionner et de se dire que c'est une situation temporaire et qu'on appelle à la compréhension de chacun pour que les choses se passent le mieux possible. Et je remercie les gens parce que énormément de gens ont pris conscience de ça et chacun y a mis du sien
Et j'imagine que notamment, comme vous le disiez, avec la triste mission des cartes, vous avez de nouvelles missions qui se sont ajoutées à celles que vous avez habituellement. Qu'est-ce qui vous prend vraiment le plus de temps en ce moment et qui est vraiment aussi difficile à gérer?
En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que la mission de maire, elle a changé. En tout cas, le curseur, là aussi, a bougé. D'habitude, on gère du quotidien, c'est extrêmement important. Mais j'ai envie de dire, d'habitude, dans une proportion de temps, vous faites aller 30-40% de quotidien, 60-70% où vous vous projetez, vous avez des consultations, des rendez-vous pour projeter la ville demain et en tout cas voir plus loin que le lendemain. Là, aujourd'hui, j'ai totalement changé de philosophie. Chaque jour doit être pris l'un après l'autre. On ne fait que de la gestion quotidienne. Vous savez, à chaque fois que ou le chef de l'État ou le Premier ministre prend la parole de façon officielle, vous pouvez être assuré que le lendemain, ça va sûrement se traduire par des circulaires ministérielles et préfectorales qui viendront ajuster, modifier des choses que vous aviez pensées mises en place. On sait qu'on nous parle de déconfinement progressif à partir du 11 mai. Bien qu'on puisse y réfléchir, les plans sur la comète, on ne va pas en faire de trop tant qu'on n'a pas les directives concernant la reprise de l'ensemble des services. Et puis on essaie de prendre un petit peu de temps aussi parce que, de rien, le nouveau mandat n'a officiellement pas commencé. Et il va nous falloir aussi, dans les mois à venir, mettre en œuvre les 68 engagements sur lesquels l'équipe a été élue. Donc, j'essaie aussi un peu de prendre de la hauteur parfois. Et puis, avec des collègues élus, on se plonge dans ce programme pour pouvoir commencer avec les services à planifier et organiser les choses pour demain.
En tout cas, avec tout ce que vous nous dites concernant la communication à conserver avec les habitants, etc., je voyais que vous étiez notamment actif sur les réseaux sociaux. C'est important d'être connecté. Est-ce que ça aide à garder le contact et montrer qu'on est présent? Quelle vision est-ce que vous avez également sur les réseaux sociaux, notamment actuellement, dans une situation comme celle qu'on vit?
Indéniablement, les réseaux sociaux, en cette période où chacun est chez soi, ils sont facilitateurs d'une circulation d'informations. Néanmoins, tout le monde n'a pas un réseau social, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas l'outil. Et cela permet quand même de toucher un grand nombre. C'est une façon de garder le contact. J'ai des personnes, hein, des habitants qui m'écrivent directement, qui m'envoient des messages de soutien, de remerciement, qui me posent des questions. Et je m'efforce en tout cas d'y répondre le plus rapidement, le plus facilement possible. Et puis, je me rends compte de quelque chose avec les élus. On s'est réparti un fichier de plus de 500 foyers qui ont plus de 70 ans. J'avais une dame au téléphone, 94 ans, qui, bien que n'ayant pas forcément Internet chez elle, avait été mise au courant par son voisin que dorénavant, en effet, elle pouvait faire ses commandes, une commande par téléphone de fruits et légumes pour un drive. Donc, la solidarité, elle a aussi marché ici. Donc, indéniablement, le réseau social, il est facilitateur d'une communication entre les générations.
Et je voyais aussi que vous valorisiez donc des initiatives, notamment solidaires. Il y a quelques jours, j'avais vu un appel aux dons de matériel pour les couturières solidaires. Est-ce que vous voulez parler un petit peu du projet? En quoi est-ce que ça consiste?
On s'est donné, en termes de communication, de relayer les initiatives qui concernent notre territoire. Parce que les initiatives solidaires, à l'échelle du pays, à l'échelle monde, il y en a des dizaines de milliers. L'initiative, en effet, des couturières solidaires, on s'est eu au téléphone, en tout cas par message, au début de l'opération. Elle a récupéré des draps réformés d'un ancien hôpital. Hein. Et en fait, elle a créé un réseau de couturières pour créer des surblouses pouvant servir aux personnels soignants, les soignants de proximité, des aides à domicile, qui se rendent chez des personnes qui en ont besoin. Donc je le salue et je salue toutes les initiatives. J'avais quelqu'un au téléphone qui disait qu'il avait organisé à l'échelle de son quartier, ils sont 15 habitants dans la rue où ils sont, 15 foyers, et ils s'étaient organisés pour qu'un seul aille chercher le pain pour tout le monde. Voilà. Donc vraiment, on sent que ça a créé des liens et que le regard que l'on pose sur l'autre a changé et j'espère qu'il continuera à changer en considérant chaque individu comme étant une belle personne.
Et en tout cas, je voyais aussi qu'il y avait d'autres petites initiatives, enfin petites entre guillemets, comme par exemple, vous aviez valorisé le fait que des familles qui bénéficient notamment de tarifs minorés pour la restauration scolaire pourront être contactées pour pouvoir évaluer un besoin d'aide pour pouvoir nourrir l'ensemble du foyer. Il y a aussi tout ce qui est le drive des producteurs qui est mis en place, qui a l'air d'être assez conséquent. Il y a quand même de jolies choses qui sont mises en place au niveau de la ville.
Oui, tout à fait. Et là, je remercie les élus qui ont fait preuve d'initiative, accompagnés des services qui l'ont mis en œuvre avec une rapidité, une efficacité qui m'a scotché. Et en effet, vous parliez de l'aide exceptionnelle. En effet, on sort aujourd'hui, ces personnes-là ne bénéficient plus de ces tarifs, puisque la restauration est bien sûr fermée, et doivent nourrir leur foyer de façon quotidienne, et ce, depuis un mois, et encore pendant un mois. Donc, l'idée a été en effet de prendre contact avec les familles pour voir un petit peu où financièrement elles se situaient, comment elles géraient les choses. Les chèques services vont être remis à des familles pour les accompagner dans l'alimentation de leur foyer pendant cette période difficile.
Pour terminer doucement l'interview, je me demandais aussi comment est-ce que vous voyez, en tant que maire et en tant que participant actif à la vie de la ville, l'avenir proche et l'avenir plus lointain vis-à-vis de cette situation.
Comme je vous le disais, l'avenir proche, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va rester dans une période où il va falloir qu'on s'adapte de semaine en semaine, de mois en mois. J'espère qu'on va quitter cette politique un petit peu du jour le jour pour aller vers un petit peu plus de perspective. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai le sentiment d'avoir passé mon temps en plus à annuler des événements, d'être passé au mois de mai, au mois de juin, voire maintenant au mois de juillet. Sur le court terme, on va progressivement essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité, mais ça, seule l'action du virus pourra nous le dire. Et puis sur le long terme, j'ose espérer que, encore une fois, on sera tirer le bilan à la fois à l'échelle locale mais à plus grande échelle de ce qu'on a vécu et d'en tirer aussi les conséquences positives. Parce que mine de rien, il y a de très belles choses qui se passent, il y a de belles choses solidaires, il y a une entraide, il y a quelque chose que l'on ressent pour beaucoup et j'ose espérer qu'on saura tirer cela, poursuivre cette action dans le temps pour un monde encore plus solidaire, pour un monde encore plus soudé et peut-être moins individualiste, comme on a pu le constater depuis de nombreuses années, et le repli sur soi et qui n'est clairement pas la ligne vers laquelle on doit aller.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je vous souhaite plein de courage pour la suite. On ne peut faire que ça.
Gentil, merci. Puis je laisserai un mot à chacun en disant restez chez
vous. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Merci encore une fois à Monsieur Cochet d'avoir répondu à mes questions. Après cette immersion dans le rôle de maire en pleine crise sanitaire, je vous propose que l'on écoute le titre Moving Day du chanteur belge Glintz.
It up, it's time to move on, move out. We found our place, we found our new crew, new crowd. It was about time that we left the ship behind. On to our new home, new house. So tell the landlord to fuck off, cause I am moving out. I found my place, I found my new crew, new crowd. It was about time that I left the ship behind. Nearly fell down the stairs, bringing all my stuff down. I stumbled and almost tripped, but you grabbed my arm. You see, I could've landed faces, but we're cool, it's calm. You said we're in this shit together, turn my frown upside down. And truly, I'm not sure I could've done it without you. Me, I tend to break stuff, but your touch is more gentle. Went and got your car, didn't have dough for a rental. Thank you, man, cause my insurance doesn't cover dental. Onto our new home, new house. Now box it up, it's time to move on, move out. We find our place, we find our new crew, new crowd. It was about time that we left this shit behind. So you're invited to our new home, new house. Now tell the landlord to fuck off, cause I am moving out. I found my place, I found my new crew, new crowd. It was about time that I left this shit behind. Took some time to find ourselves a place, it's our home base. Take your time and take your breathing space. Fuck the rap race, only aspirations that we chase at our own pace, on our own terms, and with grace. All my mates, whoa. Our house, in the middle of the street, where we don't compete, cause we're far out. All the people that I meet, where we grind the sea, yeah, cold. sold out. Come in and take a seat. We'll turn up the heat. Shout out. Young yellow on the beat. I put the pen to the sheet. Feel like we're crossing the Rubicon. These people here are my day one duns. Look at what we have already done. Don't care about being number one. Cause in my eyes we already won. Has to be right, can't be overdone. Living my truth, I will never run. Know that I'm lucky to have one. On to our new home, new house. Now box it up, it's time to move on. Move out. We find our place, we find our new crew, new crowd. It was about time that we left the shit behind. So you're invited to our new home, new house. Now tell the landlord to fuck off, cause I am moving out. I found my place, I found my new crew, new crowd. It was about time that I left the shit behind. To our new home, new house. Now box it up, it's time to move on, move out. We find our place, we find our new crew, new crowd. It was about time that I left this shit behind. I want you our new home, new house. Now tell the landlord to fuck off, cause I am moving out. I found my place, I found my new crew, new crowd. It was about time that we left this shit behind.
Vous êtes toujours au cœur de notre Covidienne sur Radio Campus Angers. Pour cette dernière émission de la semaine, Alexis nous a concocté l'une de ses fameuses chroniques. Aujourd'hui, il a décidé de se pencher sur le milieu de la fête et faire le point sur les répercussions qu'aura la situation actuelle sur les différents acteurs de ce milieu. Je lui laisse la parole tout de suite et on se retrouve juste après.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête.
Si l'on parle beaucoup de la crise économique qui se profile avec l'épidémie de Covid-19, il y a aussi un secteur qui est d'ores et déjà sévèrement touché et impacté durablement. C'est celui de la fête. Si, à l'heure où j'écris cette chronique, le ministère de la Culture n'a pas encore apporté de réponse claire et satisfaisante, les annulations de festivals continuent massivement en France, mais aussi partout sur le globe. Mais quel avenir donc pour le monde de la fête ? Si les gros festivals semblent avoir les reins solides, tout un écosystème est durablement menacé d'extinction par cette crise. Petits festivals, bars, clubs, salles de concert, etc., etc. On sait l'importance de la fête dans nos sociétés occidentales, et ce depuis la nuit des temps. Les Grecs, par exemple, avaient bien compris, à travers la figure du dieu Dionysos, comprenant l'apport primordial de la fête comme rupture du quotidien et des obligations du citoyen le temps d'une soirée, participant finalement au bon ordre et à la survie de la cité. Roger Caillois, écrivain et sociologue, a lui carrément proposé une théorie de la fête qui pourrait se résumer à cette phrase dans son livre L'homme et le sacré en 1950. On a besoin qu'un simulacre de création remette à neuf la nature et la société. C'est à quoi pourvoit la fête ? Bref, vous l'aurez compris, ô combien la fête est importante dans nos vies. Avec cette crise, c'est peut-être aussi le moment de la repenser. La planète souffre, l'écologie est plus que jamais devenue une préoccupation primordiale dans nos vies. C'est donc peut-être une occasion unique de réfléchir à de nouvelles manières de voir la fête, de l'organiser, mais aussi de la vivre. En privilégiant par exemple les circuits courts à tous les niveaux, en mettant en avant nos scènes locales ou nationales, sauvant au passage nos artistes. Arrêtons de payer des cachets mirobolants pour faire venir le dernier DJ allemand. Mettons fin aux promoteurs avides et peu scrupuleux s'engraissant sur le dos des artistes, mais aussi du public. Nos régions ont du talent, disait une célèbre chaîne de supermarchés. Nos scènes sont riches et il y en a pour tous les goûts. Des fêtes peut-être aussi plus intimes, qui ne sont plus de grandes messes où fidèles et profanes se retrouvent serrés tels des sardines. Bref, c'est le moment de repenser notre rapport à la fête et peut-être de tirer quelques leçons de cette crise impactant nos vies à tous les niveaux. C'est en tout cas un devoir national de sauver notre monde de la culture.
Merci beaucoup Alexis pour cette chronique encore une fois très intéressante. Au plaisir de découvrir les prochains sujets. En attendant, vous êtes toujours dans notre format confiné, la Covidienne, et je vous propose pour finir doucement cette émission d'écouter I'll Take Care of You de Gil Scott Heron sur Radio Campus Angers.
I know you've been hurt. Someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do.
Pour nous de clôturer cette dernière émission de la semaine. Vous pouvez comme toujours retrouver le podcast sur notre site radiocampusangers.com dans la rubrique Covidienne. Rendez-vous la semaine prochaine avec Quentin aux commandes. Et d'ici là, comme d'habitude, restez chez vous, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et une bonne soirée sur le 103 FM.